Bonjour et bienvenue sur le podcast de la plasturgie, le premier podcast professionnel créé pour les industriels de la filière plasturgie et composite. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la plasturgie. Le thème de notre podcast aujourd'hui est les avantages des matières plastiques par rapport à d'autres matériaux. Alors que le plastique est pointé du doigt, il présente néanmoins des avantages par rapport à d'autres matériaux plus consommateurs de CO2. Pour faire le tour de ces points forts, nous accueillons Hervé Millet, qui est directeur technique au sein de Plastic Europe. Bonjour Hervé Millet.
Bonjour.
Avant de commencer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Plastic Europe? Quelles sont vos missions?
Oui, Plastics Europe est l'association européenne des producteurs de matières plastiques. Elle comporte à peu près une cinquantaine de membres, représentant environ 90% de la production totale de plastique en Europe, c'est-à-dire des sociétés en fait qui produisent et vendent les plastiques sous forme de poudre, de granulés, à des transformateurs qui vont les utiliser pour fabriquer des objets en plastique. Nous sommes actifs et contribuons au débat public sur les sujets qui touchent au plastique, tant à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale dans tous les pays européens, au travers de notre siège à Bruxelles et de nos différentes implantations régionales.
Quelles sont les actions menées actuellement par Plastics Europe dans le cadre de l'économie circulaire?
Alors, la gestion des déchets plastiques est en fait une préoccupation de notre industrie et de notre association depuis déjà de très nombreuses années. J'en prendrai pour preuve quelques exemples. Nous avons créé dès 1993 en France la société Valorplast pour la gestion des emballages plastiques ménagers. Et cette association reprend actuellement environ 50% des emballages plastiques collectés et issus de la poubelle jaune et triés par les municipalités. Un autre exemple, nous avons organisé dès 1997 notre première conférence internationale sur la gestion des déchets plastiques qui s'appelle Identiplast, pour mettre en avant les meilleures pratiques en la matière. Et nous avons organisé cette année, en 2019, la 14e édition de cette conférence à Londres au mois de mars dernier, et elle a rassemblé plus de 350 participants. Et enfin, le dernier exemple passé de notre implication sur le sujet des déchets, c'est celui de l'industrie du PVC qui a lancé dès le début des années 2000 son premier engagement volontaire destiné à accroître le recyclage des déchets du PVC. Et cet engagement a abouti en 2018 au recyclage de 760 000 tonnes de PVC en Europe. Voilà, donc nous sommes tout à fait convaincus que les déchets plastiques représentent une ressource qui est trop précieuse pour être gaspillée. Et les plastiques ont cette chance de pouvoir être valorisés en fin de vie sous différentes formes, soit sous forme de matière par recyclage, soit sous forme d'énergie par valorisation énergétique. Malheureusement, même si la situation de la gestion des déchets plastiques s'est très significativement améliorée, notamment durant la dernière décennie, en 2016, environ 27% des déchets plastiques collectés ont fini en décharge en Europe et seulement 31% ont été recyclés. Et pire encore, et c'est tout à fait inacceptable, il existe aussi des déchets plastiques qui se retrouvent dans l'environnement, et notamment dans l'environnement marin, avec l'impact négatif que l'on connaît. C'est pourquoi notre profession est totalement mobilisée pour répondre à ces défis. Et elle a pris, début 2018, dans le cadre de la stratégie plastique européenne, un engagement volontaire qui s'appelle Plastique 2030, qui est celui d'améliorer le recyclage des emballages plastiques et de limiter le plus possible les pertes de plastique dans l'environnement. En matière de recyclage, et pour atteindre l'objectif de 60% de recyclage et de réutilisation des emballages plastiques que nous nous sommes fixés, nous avons notamment mis en place des structures spécifiques destinées à travailler sur le recyclage de familles de plastique particuliers, que sont les polyoléphines d'une part, le polystyrène d'autre part et le PVC. Et l'un des premiers résultats concrets à ce jour de cette action est l'annonce très récente de la création prochaine d'une unité commerciale de recyclage du polystyrène selon le procédé de recyclage chimique Agilix. Notre profession travaille en effet beaucoup sur la nouvelle forme de recyclage qu'est le recyclage chimique, qui consiste à transformer les déchets plastiques en molécules chimiques qui vont pouvoir servir soit à la production de nouveaux plastiques ou à celle d'autres produits chimiques. Et nous pensons que ce type de recyclage va pouvoir compléter le recyclage mécanique, qui est celui actuellement le plus répandu, lorsque celui-ci aura des limites technologiques. Et sur le deuxième sujet, qui est celui des fuites de plastique dans l'environnement, en fait, nous nous sentons particulièrement concernés par les fuites de granulés plastiques qui sont manipulés dans nos usines ou dans celles des transformateurs. Et nous avons mis en place un programme qui s'appelle Opération Clean Sweep, qui consiste en la mise en place de bonnes pratiques durant la production, le conditionnement, le transport des plastiques pour éviter ces fuites.
Est-ce que Plastics Europe, au-delà du programme Clean Sweep, a développé des outils spécifiques pour les industriels?
Oui, tout à fait. Je pense que l'un des outils qui peut intéresser directement un fabricant de produits plastiques est ce qu'on appelle l'éco-profil d'une résine plastique, c'est-à-dire en fait l'empreinte environnementale de la production d'un kilo de tel ou tel plastique qui va servir et qui va pouvoir être utilisé pour calculer l'empreinte environnementale du produit plastique qui va être fabriqué à partir de cette matière plastique. Voilà, donc on met à disposition des utilisateurs éventuels les éco-profils de nos différentes résines plastiques. Elles sont à disposition sur notre site internet et elles donnent l'empreinte environnementale de 1 kilo de matière plastique produit. Donc voici en quelques mots nos principales actions et implications dans le domaine de l'économie circulaire et plus spécialement en fait de la gestion des déchets plastiques.
Justement, en lien avec l'économie circulaire, on disait tout à l'heure que les matières plastiques représentent de nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux, comme par exemple le verre ou le métal, parce que l'impact environnemental est réduit. Pouvez-vous nous citer donc les principaux avantages du plastique par rapport à ces matériaux?
Avant cela, en fait, il me paraît intéressant de rappeler, et je pense que ça a tout son sens dans le cadre du débat qui est devenu crucial aujourd'hui de la préservation des ressources, que les matières plastiques ont été historiquement créées dans la deuxième moitié du 19e siècle pour remplacer des matières premières naturelles, comme l'ivoire, par exemple, qui n'était pas suffisamment abondante pour répondre à la demande. Mais le vrai essor industriel des plastiques a vraiment commencé après la Deuxième Guerre mondiale, avec une production mondiale qui est passée de moins de 2 tonnes en 1950 à presque 360 millions de tonnes en 2018. Alors pourquoi ce succès? Je dirais que d'une manière générale, la raison en est le caractère protéiforme des matières plastiques. En fait, en fonction du type de polymère que l'on choisit, de sa formulation, c'est-à-dire des additifs que l'on va rajouter au polymère, il est possible d'obtenir des plastiques aux propriétés extrêmement variées et donc de répondre à une multitude de besoins techniques très différents. Que ça soit de rigidité, de souplesse, de résistance mécanique, de tenue en température ou au feu, d'isolation électrique, de couleur, etc. Il est aussi possible de transformer les plastiques de multiples manières et d'obtenir des formes très différentes, par exemple des films, des tubes, des boîtes, et ainsi de suite. Et il est une propriété que je n'ai pas citée précédemment et qui est un avantage essentiel dans de très nombreuses applications, c'est celui de la légèreté, et notamment dans l'application de l'emballage. Dans le domaine de l'emballage, les emballages plastiques représentent 50% des emballages en nombre, mais seulement 17% des emballages en poids. Et une étude montre que si l'on devait substituer les emballages plastiques par des emballages en matériaux alternatifs, qui sont des matériaux déjà utilisés dans certaines applications, le poids des emballages s'en trouverait multiplié par 3,6. Donc, en plus de la légèreté, les emballages plastiques sont aussi particulièrement performants pour la conservation des produits frais en rallongeant la durée de vie. On estime en fait que ce gain est d'à peu près 10% par rapport aux autres matériaux, qui se rajoute au gain obtenu grâce à l'utilisation même d'un emballage par rapport à une situation sans emballage. Donc en fait, ces avantages en termes de légèreté et de durée de conservation représentent un gain environnemental très significatif. Nous avons fait mener en 2011 une étude par le consultant autrichien Denkstadt qui montre que si l'on remplaçait les emballages plastiques par des emballages en matériaux alternatifs, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la durée de vie des produits emballés seraient multipliées par 2,7 et les consommations énergétiques se trouveraient multipliées par 2,2.
Donc nous venons de parler de l'emballage. Qu'en est-il des autres domaines d'activité ?
Dans de très nombreux secteurs d'application, la légèreté que j'ai évoquée précédemment pour l'emballage est un atout majeur. C'est notamment et de manière très évidente le cas du transport où le gain de consommation de carburant et d'émissions de CO2 sont un objectif prioritaire, ce qui explique l'utilisation croissante de plastique dans les voitures avec une part qui se monte à environ 20% dans les nouveaux véhicules ou dans les avions, où ils peuvent représenter jusqu'à 50% des matériaux utilisés dans les modèles les plus récents. Dans un autre secteur qui est celui du bâtiment, dans des applications qui sont amenées à durer plusieurs dizaines d'années, les plastiques sont appréciés en plus de leur légèreté pour d'autres caractéristiques. Par exemple, pour fabriquer des tuyaux qui sont non sensibles à la corrosion et ne généreront donc pas de fuite, ou dans des fenêtres qui sont très isolantes et faciles d'entretien, ou dans des isolants de cloison ou de toiture qui sont très performants, même à faible épaisseur. Et enfin, les plastiques sont appréciés pour leurs propriétés mécaniques ou d'innocuité dans un certain nombre d'applications de pointe, comme le médical, par exemple pour des prothèses, la fabrication de matériel sportif de haute performance ou même dans les technologies vertes pour des pales d'éoliennes ou des cellules photovoltaïques. On estime d'une manière générale que 17% des applications des plastiques notamment dans ces secteurs-là, du médical, de l'électrique, électronique, n'existerait pas sans les matières plastiques.
Donc pour conclure, quelles sont les perspectives pour le plastique au niveau national, européen, voire mondial ?
Si on fait un retour en arrière depuis l'origine des matières plastiques, ou en tout cas le démarrage industriel des matières plastiques, on s'aperçoit que le marché des matières plastiques a connu une croissance absolument extraordinaire d'environ 8% par an depuis 70 ans. Alors, cette croissance s'est ralentie si l'on considère une période plus récente, puisqu'elle a été d'environ 4,5% dans les 30 dernières années. Et les matières plastiques, en fait, sont utilisées dans tous les secteurs d'activité. Alors, d'abord dans celui de l'emballage, comme on l'a vu précédemment, qui représente environ 40% du marché en Europe, mais aussi le bâtiment, la construction, l'électrique électronique, le transport, mais aussi l'agriculture et les loisirs. Donc l'évolution de la demande, en fait, est très liée à la croissance générale de l'activité, mais aussi au degré de développement d'un pays. Ainsi, la consommation de plastique par habitant est aujourd'hui supérieur à 100 kilos par habitant et par an dans des pays développés, alors qu'elle n'est que de quelques dizaines de kilos par habitant dans des pays qui le sont moins. Les plastiques accompagnent en effet et les favorisent même le développement des infrastructures, des moyens de communication et d'alimentation d'une société. Il est donc tout à fait prévisible que la demande des pays en voie de développement continuera à croître très significativement. C'est vrai que dans des pays développés comme les nôtres, le niveau de croissance sera sans doute plus faible. Par ailleurs, il est impossible de nier, comme vous l'avez évoqué en introduction, que les plastiques sont actuellement critiqués, parfois très critiqués, notamment dans des applications à très courte durée d'usage, et cela principalement en raison des impacts environnementaux liés à une mauvaise gestion en fin de vie. Et ces critiques qui se traduisent parfois même par l'interdiction de certaines applications, comme les sacs plastiques à usage unique, sont un vrai défi pour notre industrie. Comme j'ai dit précédemment, nous devons à la fois faire valoir les avantages des produits plastiques par rapport aux produits en d'autres matériaux, y compris sur le plan environnemental, faire progresser la réutilisation lorsqu'elle est bénéfique pour l'environnement et qu'elle ne compromet pas la sécurité sanitaire, comme par exemple dans le cas des sacs plastiques réutilisables, et enfin valoriser le plus possible les plastiques en fin de vie, en donnant la priorité au recyclage. En fait, il ne faut pas oublier que les plastiques sont encore, par rapport aux autres matériaux, un matériau jeune qui s'est développé excessivement rapidement, tellement il a apporté des bénéfices à notre société. Et nous devons aujourd'hui tout mettre en œuvre pour que notre société continue à pouvoir bénéficier de ces avantages en limitant le plus possible les impacts négatifs d'un tel développement. Et c'est en fait le sens même de ce qu'on appelle le développement durable.
Alors, je crois que on a finalement vraiment la conclusion, faire valoir les avantages des produits plastiques, faire progresser la réutilisation, valoriser les plastiques en fin de vie, car il y a de nombreux avantages. Hervé Millet, merci beaucoup d'avoir partagé ces éléments avec nous. Ils sauront certainement être d'une grande utilité aux industriels qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc toutes les informations concernant ce podcast sur notre site internet ct-ipc.com dans la rubrique podcast. Donc vous aurez les coordonnées notamment de Plastics Europe. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la plasturgie pour parler d'autres sujets liés à l'économie circulaire.